finir le psaume 73 devant les yeux. C'est la version colombe de ce matin. Mais là, on ne va pas relire le texte, nous allons tout simplement commencer dans la confiance que Dieu le Saint-Esprit veille sur sa parole pour nous parler. Pourquoi ce psaume est-il dans l'Écriture? Pourquoi avons-nous besoin de ce psaume particulièrement? En fait, ce psaume ne parle pas vraiment du mal. On a l'impression, on entend dire souvent que c'est un psaume au sujet du mal, mais en fait, et au contraire, le thème de ce psaume, c'est la bonté de Dieu. Nous allons donc commencer par là. J'ai trois choses que je voudrais tirer du psaume et essayer de vous faire voir ce matin en espérant que ça touche notre point de besoin. Le premier, c'est que le fondement de ta vie spirituelle et de toute vie spirituelle, le fondement même de la vie d'une chrétienne, c'est la confiance en la bonté de Dieu. C'est la confiance en la bonté de Dieu. C'est en fait le titre du psaume, le psalmiste annonce son thème dans le premier verset. Oui, Dieu est bon pour Israël. Voilà ce qui est dans sa tête, ce qui est dans sa pensée, c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, pour les vrais croyants. Quand nous regardons la fin du psaume, nous voyons que c'est le même thème. Il dit, dans le verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Alors le mot « bien », c'est le même mot hébreu qui traduit « Dieu est bon pour Israël ». On retrouve le même mot ici. « Dieu, c'est mon bon. » C'est mon bien, c'est le même mot. Donc au début, il dit « Ce qui est dans ma pensée, guidé par le Saint-Esprit, c'est cette grande réalité, la plus fondamentale, Dieu est bon. » Pour le croyant. Et il dit à la fin, mon bien, c'est cette proximité de mon Dieu. Donc, nous allons essayer de réfléchir à cela juste un moment, au début de cette méditation de ce matin, le fait que donc la bonté de Dieu soit le fondement d'une vie chrétienne paisible et glorifiante à Dieu. Nous pouvons procéder en regardant quelques passages explicites, par exemple, regardez le psaume 34, et je pense que c'est le verset 6. Non. Oui, verset 9 plutôt, qui est cité dans le Nouveau Testament. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ou bien, nous pouvons penser à des passages, on pourrait choisir de nombreux passages dans la Bible, des affirmations directes dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11. L'auteur nous dit, celui qui s'approche de Dieu, et donc c'est le thème de ce psaume, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, son existence, et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est-à-dire, celui qui récompense, qui bénit. Donc, c'est une manière de parler de la bonté de Dieu. Gilbert, j'ai vraiment peur que tu vas cuire, là. Parce que tu n'as pas trop chaud?
Non.
Et vous, ça va, la chaleur? Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir la fenêtre un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez juste...
C'est toi qui
avais oui, on ne savait pas que le soleil va être...
On peut ouvrir la porte au fond, ça fait bien un peu d'air frais.
Oui,
je pense. Parce que avec cet apport de chaleur constant, dans 30 minutes, on va cuire ici. Hein, ouais. Ouais, voilà, ça va aller. Ouais, ok, très bien. Bon. Allez, si tu as envie de bouger un nombre d'années, ne te gêne pas. Hein? Ne te gêne pas. Ok. Bien. Donc, nous disons que dans les Écritures, nous voyons par des affirmations directes donc que la bonté de Dieu, la confiance dans la bonté de Dieu est vraiment le fondement de notre relation avec lui. Nous pouvons le prendre d'une autre manière. Le psaume 136 est le seul psaume dans le psaltier où il y a un refrain qui est répété tout le long du psaume. C'est afin d'appuyer une réalité tout à fait cruciale. Et vous voyez ce psaume, si vous regardez, « Célébrez le Dieu des cieux, car sa bienveillance dure à toujours, sa bonté. » Dans d'autres versions, « Celui seul, qui seul fait des grands miracles, car sa bienveillance dure à toujours. » Car sa bonté dure à toujours. Car sa bonté dure à toujours. Et donc le but du psaume ici, c'est de convaincre les croyants d'une chose, que Dieu est partout, et pour tout, et constamment, irrévocablement, plein de bonté envers son peuple. Nous pourrions aller ailleurs dans les Écritures, peut-être vous avez d'autres versets en tête à ce propos. Je pense à un phénomène qui est assez étonnant dans l'Ancien Testament. Regardez juste rapidement 2 Chroniques chapitre 5 et les versets 13 et 14. C'est au moment du dédicace du temple. On vient de construire le temple Salomon. Et donc c'est le moment de dédier ce temple à l'Éternel. Et nous lisons au verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes et cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel par ces paroles, quelles paroles vont être les paroles de dédicace? Une phrase. Car il est bon, sa bienveillance dure à toujours. Pas il est puissant, pas il est juste, mais la louange de la dédicace, du dédicace du temple, c'est l'Éternel est bon. Ce n'est pas un fait isolé, parce que si nous allons un peu plus loin, dans le chapitre 20 du même livre, si vous avancez juste quelques pages, dans le livre 20, pardon, le chapitre 20, et les versets 21 à 22, nous avons une guerre du roi Josaphat, et donc il doit... Donc, aller en guerre d'une manière un peu spéciale parce qu'il va envoyer des chantres qui vont chanter au moment de l'engagement entre les deux armées. Verset 21. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait... Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours, et au moment où on a commencé les acclamations et les louanges, donc sur la montée de Dieu, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Mais la louange que les chantres donnent au moment d'engager la guerre, c'est la même chose, c'est au sujet spécifiquement de la bonté de l'Éternel. Et une dernière référence se trouve dans le livre d'Esdras, chapitre 3, et les versets 10 à 11. Si vous allez juste un peu plus loin dans votre Bible, c'est pas loin après 2 Chroniques. Et ici, c'est après l'exil, donc le rétablissement d'Israël. Et donc, au moment où on reconstruit un nouveau temple... Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on mit en place les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales afin de louer l'Éternel. Après les indications de David, roi d'Israël, il faisait les réponses en louant et célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dure à toujours. Dieu est bon, il est durablement bon envers toi. C'est là que tout se fonde et se commence. Est-ce que vous diriez que votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu est fondée sur une confiance paisible et constante que Dieu est plein de bonté envers moi? Plein de bonté. C'est une chose à ne pas répondre trop rapidement, parce que le cœur est tortueux. Et nous allons voir que, à travers les providences, les situations qui nous arrivent, nous pouvons être tentés à avoir le pied qui fléchit. Regardez le verset 2. Quant à moi, malgré la bonté de Dieu, quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. J'allais donner un titre à ce message et peut-être je dirais mes pieds allaient fléchir. En tant que croyant, est-ce que ça vous est arrivé de rétrograder, d'avoir des moments de déclin spirituel? Ben, on a l'histoire ici d'un homme de Dieu qui a eu un moment de détournement du Seigneur. Et ses pieds ont presque complètement fléchi. Et c'est à cause d'une perte de confiance en la bonté de Dieu. Nous allons regarder cela et donc nous arrivons au deuxième point. Le premier point, c'est que le fondement de la vie spirituelle d'un chrétien, c'est sa confiance dans la bonté de Dieu. Et quand j'utilise le mot bonté, moi je signifie, comme les théologiens, la bonté de Dieu, c'est cet attribut qui inclut l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui sauve le pécheur malgré ses démérites, la miséricorde, la bonté de Dieu englobe tout cela. D'accord? Ok? Mais donc, nous arrivons au deuxième point que nous devons comprendre, c'est que si la confiance en la bonté de Dieu est véritablement le fondement de notre vie spirituelle, la manière par excellence que Satan utilise pour essayer de nous faire tomber, nous faire chuter dans la vie chrétienne, c'est de miner notre confiance dans la bonté de Dieu. Je prends pour témoin d'abord le psaume, parce que, nous allons voir que le problème ici, de cette chute, cette presque chute du psalmiste, c'est justement un doute vis-à-vis de la bonté de Dieu. L'occasion, c'est le mal qu'il a vu autour de lui. Nous pouvons voir ça au verset 3, où le psalmiste donne un résumé de ce qui va suivre, de sa presque chute. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Donc l'occasion de sa presque chute, c'était le fait de voir les hommes incrédules et injustes prospérer, arriver au bout de leurs intentions mauvaises, et même jouir d'une vie paisible, alors que lui, croyant, c'était le contraire. Mais quel était l'effet de voir cela? L'effet de voir cela, c'est de le tenter à se dire, mais mince, est-ce que Dieu est vraiment bon dans sa manière de gérer le monde, et les autres, et les méchants, et regarde-moi ma vie. C'est justement cela qui est en jeu. C'est une tentation de douter maintenant la bonté et la fidélité de Dieu. Nous voyons qu'il explique à partir du verset 4, donc la cause extérieure de son doute vis-à-vis de la bonté de Dieu, la cause extérieure, c'est les méchants qui prospèrent. Alors, je ne vais pas tout lire, mais on va lire juste quelques bouts. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est replet, ils n'ont aucune part à la peine des ânes. Ils ne sont pas frappés avec les humains, l'orgueil leur sert de collier, la virulence et le vêtement qui les enveloppent, leur figure est débordante de graisse, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose en dehors du croyant parfois, même comme ce qui arrive au Japon, ou les choses que vous pouvez voir autour de vous, les choses mauvaises, le mal dans ce monde, qui peuvent vous tenter à dire, inconsciemment, la plupart du temps, vous n'allez pas le dire, même à votre propre cœur, à voix haute, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment bon? que Dieu est grand. Ça, c'est la cause extérieure. Mais le psalmiste explique aussi une cause intérieure de son doute, qu'il faisait dire, est-ce que Dieu est vraiment bon? Et nous voyons cela au verset 13 et suivant. Regardez. Donc, il finit au verset 12 de parler des méchants et leur prospérité. Et au verset 13, remarquez le changement de sujet. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Cet effort de vivre une vie chrétienne, je parle pour nous, de vivre pieusement, c'est une vanité, c'est futile. Parce que la manière dont Dieu gère les choses, ça ne m'apporte rien. Il dit, au verset 14, « Tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » Est-ce que Dieu est vraiment bon? Parce que regarde la vie du croyant. Regarde comment c'est que de vivre en croyant. On est châtié tous les jours. Tous les matins, me voici encore un châtiment que Dieu apporte dans ma vie pour me changer, pour me purifier encore. Est-ce que c'est vraiment bon tout ça? Donc vous voyez, il y a une cause extérieure, les méchants qui prospèrent, qui peut se pousser à dire est-ce que Dieu est vraiment bon, mais il y a une cause intérieure. Parfois, la vie chrétienne est fatigante. Parfois, la lutte avec mon péché à moi est pénible. Êtes-vous d'accord? Et parfois, sans savoir que je suis en train de le faire, je dois vous dire que pour moi, parfois, je me lasse dans mon esprit profondément. Je me dis, sans savoir que je suis en train de penser cela, j'agis comme un homme qui ne pense pas que la vie chrétienne est bonne. La volonté, tu as lu le passage de David, la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait, mais moi je vis comme si tout le contraire est vrai. Que la vie chrétienne est pénible, c'est une corvée, c'est une difficulté, et son auteur, Dieu, n'est pas un Dieu qui est vraiment bon. En tout cas, voilà la situation qui peut nous guetter. En vain, j'ai lavé mes mains. Mon châtiment est là tous les jours. Nous voyons que maintenant, il a vraiment un point de vue qui est tordu, quand on en arrive là. Il est arrivé à travers sans doute des semaines et des mois, nous allons le voir dans un moment, avoir un point de vue sur lui-même, sur sa vie de croyant, sur les autres, sur Dieu, qui, ses pieds étaient sur le point de vraiment fléchir. Mais ça peut nous arriver aussi de manière plus subtile. Et je pense qu'il y a des chrétiens qui vivent une vie chrétienne médiocre, hésitante, et pas joyeuse, parce qu'ils ont perdu cette confiance que, oh, que Dieu est bon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ils ne vivent pas dans cette réalité, le jour en jour. Donc, j'espère que vous voyez que la manière par excellence que Satan peut nous faire chuter, c'est d'attaquer notre confiance dans la bonté de Dieu. Mais je veux amener d'autres témoins que le psaume. Le jardin d'Éden. Quelle est la première tentation de Satan envers l'humanité? Dieu vous prive de cet arbre qui, lui, est en fait la clé pour votre épanouissement. C'est cet arbre qui va vous faire devenir comme Dieu, et Dieu ne veut pas que vous ayez peur. En d'autres termes, résumons, Dieu n'est pas bon. Je suis venu vous faire découvrir cette réalité importante. Et Satan n'a pas arrêté d'utiliser la même technique. Nous allons prendre comme témoin le livre des Juges, chapitre 6, pour voir comment ça marche. Juges, chapitre 6, est le témoignage de Gédéon. Il nous donne un portrait tout à fait vivant de cela. Juges 6, 12 à 13. Vous vous rappelez de l'histoire, ça fait des mois sans doute que le peuple de Madian donc opprime le peuple d'Israël. Okay? Donc Israël est sous l'oppression d'un envahisseur, ça va pas bien, et même Gédéon est en train de se cacher pour battre le froment dans un pressoir de vin. Un endroit bizarre pour faire ça, mais il se cache parce que les Madianites viennent et ils volent toute la nourriture à chaque moisson. Mais donc le verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Est-ce que vous avez jamais pensé comme ça? Si l'Éternel est avec nous, c'est une façon de dire que Dieu est bon envers moi. Si l'Éternel est avec moi, ça veut dire qu'il agit avec bonté envers moi. Si l'Éternel est avec vous, pourquoi tout cela arrive-t-il? C'est la même chose que le psalmiste. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi est-ce que ça m'arrive-t-il d'être châtié tant si l'Éternel est avec moi? L'Éternel n'est pas avec moi, je ne suis pas convaincu, l'Éternel ne n'use pas de bonté envers moi. Nous allons plus loin dans le verset 13, et donc nous lisons au milieu du verset, « Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » C'est fort, hein? C'est fort. Et nous livre entre les mains de Madian. Les pieds de Gédéon sont sur le point de fléchir pour la même raison. Perte de la confiance que l'Éternel est avec nous dans une grande bonté. Nous aimons, nous chérissons, prenons soin de nous, nous pardonnons, nous amenons vers sa gloire. Et donc, voilà la situation que nous pouvons voir un peu partout dans la Bible. Pour David, c'est la même chose. Il est traqué par Saül pendant une quinzaine d'années, n'est-ce pas? Il fuit pour sa vie. Et quand il écrit les psaumes, à travers cette expérience des années, ces psaumes sont quoi? Si vous voulez, les psaumes de David, lorsqu'il fuit Saül, sont le record, sont le rapport d'une lutte d'un homme de Dieu pour continuer à croire à la bonté de Dieu. Souvent dans les psaumes, il est en train de lutter avec Dieu. Où es-tu? Où est ta bonté? Secours-moi, montre-moi ta face, fais lever sur moi la lumière de ta face, etc. C'est la même chose. Ou nous pourrions prendre à témoin Job, qui, lorsqu'il arrive tant de malheurs, sa grande lutte, c'est de rester confiant que l'Éternel est son Dieu, son Sauveur, qui l'aime et qui est avec lui et qui a des bonnes raisons pour permettre ses difficultés. Et vous? Quelle est la situation pour vous? Qu'est-ce qui vous tente à avoir une confiance moins que plénière, moins que complète dans la bonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses intérieures qui vous minent? Mais si Dieu était avec moi, cela? Ou bien des choses extérieures? Si Dieu était bon pour moi, cela pouvait-il arriver? Est-ce qu'il y a des choses qui vous lassent et qui vous découragent dans ce sens? Des injustices et des souffrances, peut-être la santé, peut-être vos biens financiers, des pertes, toutes sortes de choses de ce genre. Nous arrivons au dernier point. Donc nous avons dit que le fondement de la vie chrétienne, c'est que l'Éternel est bon pour ceux qui sont purs de cœur. La bonté de Dieu. Et que la manière dont Satan veut nous tenter par excellence, pas la seule manière, mais par excellence, c'est de perdre la foi que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous arrivons donc au troisième point, la bataille pour vivre dans la confiance dans la bonté de Dieu et gagné dans la vie dévotionnelle. Alors, je vais m'expliquer. D'abord, regardez les versets 16 et 17. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, la prospérité des méchants et tout cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, ou jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu, donc il arrive au temple pour adorer, hein, pour faire le culte. Alors, là, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, j'ai compris. Le sort final des méchants, j'en suis sorti de mon problème. J'ai retrouvé la confiance en Dieu. Et il raconte ce qu'il a compris. Donc, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. En un instant, les voilà en pleine désolation. Au moment voulu, oui, Dieu exerce sa justice envers les méchants et donc délivre son peuple de ces méchants. Voilà ce qu'il a compris. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment il a compris. Alors, je dis que pour nous, la clé pour vivre dans la confiance, dans la bonté de Dieu, c'est la vie dévotionnelle. Je m'explique. Je passe beaucoup de mon temps en tant que pasteur réformé baptiste à encourager les gens à penser, à étudier, à réfléchir. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie tout simplement sentimentale, n'est-ce pas? C'est pas une vie mystique tout simplement. Moi, je veux que les gens apprennent la doctrine, l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui nourrit la foi. Mais, ce côté plus intellectuel ne suffit pas. Il y a une différence entre les actions dévotionnelles du chrétien et les actions intellectuelles. On ne doit jamais les séparer, je suis d'accord, mais il faut que je les sépare aujourd'hui, hein, pour distinguer, pour vous montrer quelque chose. Maintenant, quelle est la différence? Dans les actions intellectuelles que vous avez en tant que chrétien, vous lisez, vous réfléchissez, vous essayez de comprendre, d'analyser, de comprendre les vérités, les réalités bibliques, les doctrines, ainsi de suite. D'accord? Vous raisonnez, vous réfléchissez. Dans les actes dévotionnels, on utilise une autre partie de la personnalité humaine. Dans les actes dévotionnels, on se confie, on s'appuie sur le Seigneur, on affectionne le Seigneur, on s'approche de Dieu. La différence est assez grande. Par exemple, vous pouvez étudier la doctrine de la justification par la foi seule. Qu'on est sauvé non pas par nos œuvres, mais gratuitement par la justice du Christ. Vous pouvez étudier ça, vous pouvez lire des livres là-dessus, vous pouvez intellectuellement donc arriver à comprendre. Ça, c'est une chose. Mais c'en est une autre que de s'appuyer et de se reposer dans la réalité de la justice du Christ. Vous voyez? Dans un cas, je réfléchis au sujet de quelque chose d'extérieur à moi, comme un sujet. Dans l'autre, j'utilise cette réalité. Je m'appuie, je me repose. Oh, la justice de Christ est à moi tout entière et me sauve. Vous voyez, il y a un acte différent entre le fait de comprendre la doctrine et de s'en remettre à cette réalité. Ou bien, si vous voulez prendre un autre exemple, on va réfléchir. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre l'amour de Dieu ou la bonté de Dieu. Par exemple, nous avons lu dans le psaume 34 tout à l'heure, « Goûtez et voyez que Dieu est bon. » Maintenant, je peux étudier l'attribut de Dieu qui s'appelle la bonté. J'aligne les versets bibliques et j'étudie toutes les articulations de cet attribut de Dieu, la bonté, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche, et je réfléchis. Mais c'est une chose différente que de goûter. Et le psalmiste, C'est que nous savons ce que c'est, intellectuellement, que la bonté de Dieu. Mais goûtez et voyez. Et dans les actes dévotionnels du chrétien, il s'approche de Dieu. Il se confie à Dieu. Il se livre à Dieu. Il affectionne Dieu. Ça met en œuvre l'amour et la confiance, la dépendance. On exprime les émotions. D'accord? Et ça me met dans une relationnel très vivant avec tout ce que je suis vis-à-vis de Dieu. Ok? Voilà la différence. Maintenant, nous pouvons essayer de comprendre ce point. Alors, restez avec moi, nous avons presque fini, mais c'est là où je... Tout ce temps, c'est pour arriver à ce point. D'accord? Ok. Maintenant, je voudrais rapidement parcourir le psaume et regarder la pente descendante dans la chute et la pente remontante. Ok? Mais on va le faire rapidement. Dans le verset 3, il dit que tout a commencé en voyant. Il s'en est fallu de rien que mes pieds ne glissent, car je jalousais les insensés, l'envie. Mais l'envie n'est pas quelque chose qui arrive dans un instant. Ça arrive au début, et puis ça s'incruste. Et dans les versets 4 et suivants, nous voyons que quand il décrit longuement par combien 8 versets, toute la prospérité des méchants et leur vie, etc., nous voyons qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a commencé à s'obséder là-dessus. Il a dû passer des semaines et des mois à demeurer sur ce problème, cette réalité des méchants qui prospèrent. Parce qu'il arrive à le décrire la vie des méchants et leur aise en tellement de détails que ça ne peut arriver qu'en pensant trop à ça. Il pensait à ça, il pensait à ça. En anglais, nous avons un mot, je ne sais pas comment le traduire, Pierre, peut-être tu peux m'aider, muse. Quand on muse sur quelque chose, ça veut dire qu'on réfléchit longuement, on retourne ça, on repasse ça dans l'esprit. Les méchants, ils ont ça, et ils sont comme ça, et combien c'est injuste. Vous voyez que ça, c'est la prochaine étape.
Il dit ruminer.
Ruminer, exactement. Il a ruminé. Et donc, il arrive dans cette pente descendante à vraiment ruminer sur une situation de mal, d'injustice. N'est-ce pas? Ensuite, nous voyons la prochaine étape, il essaie de lutter contre cet état. Dans le verset 16, il dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre. » Ou bien dans d'autres versions, « Quand j'ai réfléchi afin de comprendre cela. » Alors la prochaine étape, c'est que je vais m'en sortir moi-même. Je vois qu'il ne faut pas que je reste là. Je vois un dilemme. Le dilemme, et vous l'avez aussi, c'est que nous rencontrons le mal dans le monde, à l'extérieur et à l'intérieur. Le mal est là, ce qui ne devrait pas être. Et ça crée une tension entre la réalité de la bonté de Dieu. Dieu est bon, mais il y a le mal là. Comment est-ce que je peux réconcilier les deux réalités? Il y a une grande tension. Et lui, il sent cette tension. Il voit les méchants et leur aise. Et il sait qu'il y a cette tension qu'il faut qu'il solutionne. Et il va essayer de faire ça par la réflexion. C'est-à-dire, il va utiliser cette partie intellectuelle. J'ai réfléchi pour comprendre. Et quel était le résultat? Regardez la phrase suivante. Ce fut pénible à mes yeux. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, dit une version, ce fut pénible à mes yeux. Je ne suis pas arrivé à une solution. Je n'ai pas retrouvé la confiance que Dieu est bon. Et je vis de sa bonté immense tous les jours. La réflexion, l'intellect, c'était pas la voie de sortie. Mais quelle était la voie de sortie? Regardez le verset suivant. Jusqu'à ce que j'entre ou j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris. Qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Il dit, j'ai tenté la voie intellectuelle, j'ai essayé de comprendre, de m'en sortir par la réflexion, ça n'a pas marché, et une chose étonnante m'est arrivée, je ne m'attendais même pas à cela, je suis allé au culte. Je suis allé au culte et je suis allé dans les sanctuaires de Dieu. Qu'est-ce qu'un juif faisait quand il allait au sanctuaire de Dieu? Il allait pour louer, il allait pour chanter, il allait pour se confier, il allait pour s'en remettre à Dieu, pour prier. Toutes ces activités dévotionnelles se mettaient en jeu. Les sanctuaires, c'était pas le bureau d'études. C'est pas, genre, on n'arrive pas au sanctuaire de Dieu pour réfléchir et analyser. On va au sanctuaire de Dieu pour lever les mains, pour dire, ô Éternel, que tu es grand, que ton nom est redoutable et bon. Donc, il arrive au sanctuaire de Dieu dans la présence de Dieu et il active la partie dévotionnelle de sa vie. Il loue, il chante, il se confie, il s'appuie, il se livre à Dieu, il affectionne, il croit. Et qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'il est en train de s'approcher de Dieu, de goûter et de voir que Dieu est bon, il voit que Dieu est bon. Et que Dieu prendra soin du problème du mal en son temps et de sa manière. Donc voilà la pente qui commence à remonter à partir du verset 17 à 20. Il comprend, mais c'est pas fini. Regardez ce qui arrive après cela. Il dit dans les versets 21, c'est une réflexion en arrière, il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait, voilà, il se réfère à ce moment de déclin, et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. » C'est incroyable qu'un croyant puisse devenir comme ça. « J'étais comme une bête sauvage avec toi. » Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. C'est un autre homme qui parle ou quoi? C'est le même qui parle? Regarde ces affirmations pleines de confiance dans la bonté. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi, tu me conduis, tu vas m'amener à la gloire. Ouf, la pente remonte. Il dit trois choses au sujet de la bonté de Dieu dans ces versets que je viens de lire. Il dit que la bonté de Dieu est dans mon passé, mon présent et mon avenir. Il dit, j'étais comme une bête sauvage, mais cependant, je suis toujours avec toi. C'est-à-dire, au moment où je me suis réveillé d'une attitude, d'un état mauvais vis-à-vis de toi, j'ai réalisé, ah, tu étais avec moi tout ce temps. Tu avais même saisi ma main droite. Mon passé, quand je n'allais pas bien, quand je n'étais pas bon envers toi, tu étais bon envers moi. Tu me gardais. Tiens, cependant, tu es toujours avec moi. Ça, c'est le passé. Deuxièmement, le présent. Il dit au présent, tu me conduis par ton conseil. Je vis une vie dans ce monde qui n'est pas seul. Je vis guidé par le conseil même du Dieu tout sage. Quel bonheur! Toute ma vie, dans les déclins et dans les remontées, dans les bons moments et dans les mauvais, je suis soutenu et dirigé par le conseil de Dieu lui-même. J'ai vraiment un privilège de vivre comme cela. Et troisièmement, le futur, il dit, puis, ensuite, un jour, tu me recevras dans la gloire. Une bonté infondable m'attend un jour, parce que toi-même, c'est toi qui vas m'accueillir dans ta gloire. Qu'est-ce que nous sommes bénis et entourés de la bonté de Dieu dans notre passé, dans notre présent, dans notre futur, sauf que je ne le voyais même pas à un moment donné, parce que mes pieds allaient fléchir. La pente remonte encore, regardez. Maintenant, nous voyons non seulement il a retrouvé la confiance, mais il y a une attirance de son cœur vers Dieu. Il dit, qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ça, c'est pas le genre de phrase qu'on peut créer, le genre de sentiment qu'on peut créer par l'intellect. N'est-ce pas? C'est comme si, tu vois, on ne tombe pas amoureux d'une fille par un travail intellectuel. Ah oui, d'accord, oui, comment est-ce que tu veux donc être pris de coup de foudre vis-à-vis d'elle, donc il faut que 1, 2, 3, c'est pas comme ça. C'est une autre partie de la personnalité qui fait qu'on tombe amoureux, n'est-ce pas? Même si l'intellect, il agit aussi, n'est-ce pas? Mais il y a plus que moi que mon intellect. Et quand quelqu'un dit, qui d'autre aurais-je que toi au ciel? Et en dehors de toi, je ne veux rien sur la terre. Nous voyons que son cœur, ses affections sont tout remués, activés, remis en vie. Et il a envie de Dieu. Il a envie. Ensuite, nous voyons, il dit, ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Ah, oui, parce qu'il vient de le vivre d'une manière pitoyable. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Nous voyons qu'il a cette confiance dans la vie de grâce. C'est-à-dire, moi, mon cœur peut défaillir, je peux être infidèle. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu sera, malgré moi, le rocher, la forteresse de mon cœur. Il remettra mon cœur comme il le faut. Ça, c'est absolument faux. Voilà un homme qui maintenant, il parlait de justice, d'injustice avant, maintenant il parle de grâce. Il a même oublié les méchants, il n'en parle plus. Dans toute la dernière partie du psaume, les méchants ont disparu. Les méchants sont toujours là, ils sont toujours aussi méchants, mais ça ne le trouble plus. La situation n'a pas changé, il a changé. Comment a-t-il changé? En entrant dans le sanctuaire de Dieu pour louer, chanter, se confier, s'approcher, goûter. Et là, son cœur s'est délié. Et il a retrouvé la confiance et le bon sens qui dit que Dieu est bon. Nous arrivons donc à la fin. Il dit au verset 28, « Pour moi, maintenant il devient, oui, audacieux, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est la bonté même. » Non pas analyser qui est Dieu et comment il est, ça c'est pas mon bien, mais m'approcher de Dieu. Parce que vous voyez, un sujet qu'on traite intellectuellement est toujours quelque chose de distant. Même si c'est la bonté de Dieu, c'est en dehors de moi, je le regarde, j'observe, j'analyse. Mais là, il parle d'autre chose. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est là que je ne faisais pas. Je réfléchissais pour comprendre, mais je n'approchais pas. Et voilà le juxtaposition que le psalmiste veut nous faire voir dans ce psaume. C'était pénible jusqu'à ce que je m'approche. Le grand théologien et ancien premier ministre du Pays-Bas, Abraham Kuyper, très étonnant dans l'histoire d'avoir un pasteur qui devient premier ministre, surtout quand il est tout à fait évangélique et réformé, mais ça c'est assez, il a écrit un livre renommé, un classique, un chef-d'œuvre qui s'appelle « Être proche de Dieu »,« To be near to God », ou « M'approcher de Dieu ». Et tout le message de ce livre se trouve dans ce psaume et dans ce dernier verset, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Alors, nous avons besoin aussi d'appliquer sans doute cette réalité à nous-mêmes. Est-ce que vous avez besoin d'activer un peu plus le côté dévotionnel de votre vie chrétienne? Regardez un peu votre culte personnel. Qu'est-ce que vous faites? Je connais des chrétiens pour qui le culte personnel, c'est un moment de lecture. Donc c'est l'intellect qui travaille. Oui, j'ai lu mon passage pour le jour, et puis j'ai compris, Et puis peut-être que je lance quelques paroles de Dieu et puis ça y est, c'est bon. J'en connais même qui sont tellement dans cette attitude-là que ce qui compte, c'est de ne pas rater le rythme de lecture du jour. Ah, quel jour? Ah oui, je dois... Ouh, j'ai raté hier, je dois lire 2 chapitres aujourd'hui. Et donc c'est un truc complètement rigide, intellectuel, c'est la tête. Si je devais donner un dessin, je ferais un croquis avec un bonhomme qui a une tête comme ça, et puis un cœur qui est juste des bâtons. Et là où le cœur devait être, c'est juste une ligne. C'est déséquilibré. Parfois nous sommes comme ça. Notre vie avec le Seigneur marche plus sur la connaissance que sur l'affection. Plus sur la doctrine que sur la confiance. Et là, nous nous mettons dans les ennuis. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais nous devons faire attention. Comment êtes-vous avec le Seigneur? Quel est votre relationnel avec lui? Quand vous vous mettez à part pour vous approcher de l'Éternel, est-ce que c'est un exercice de la tête ou aussi du cœur? Est-ce que vous êtes vulnérable avec Dieu? Et peut-être les hommes ont plus besoin de cette parole, parce que les hommes sont très peu vulnérables, c'est-à-dire nous ne voulons pas admettre même à nous-mêmes nos souffrances, nos difficultés, et encore moins à notre femme. Elle sait que ça va pas, mais elle ne sait pas pourquoi. Parce que les hommes ne veulent pas mettre en dehors, avouer, dire, lâcher le morceau. Et parfois on traîne cette habitude avec le Seigneur aussi, et ça bloque. Mais avec Dieu, nous devons tout déverser, tout dévoiler, s'accrocher, et lui dire, oh Dieu, attire-moi à toi. N'est-ce pas? Nous devons agir de cette manière avec Dieu. Parce que c'est dans cette vie dévotionnelle que nous allons retrouver la foi dans sa grande bonté. J'ai fini. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide vraiment à vivre cela.